préparé, on cherche à percer les mystères de la science. Mais le soir, j'aime me laisser prendre à ceux de la musique, avec Berlioz, par Dudamel.
Orchestre, chœur et maîtrise de Radio France, abonnez-vous. Nouvelle saison des concerts de Radio France, brochure gratuite au 01 56 45 16 et sur concert.radiofrance.fr. Abonnez-vous.
France Inter.
La voix est libre.
Vous écoutez France Inter, tout de suite la basse ici avec Daniel Mermet et son répondeur et tous ses amis derrière le studio.
Oui, c'était juste pour dire que le printemps est arrivé. Les tondeuses, les débroussailleuses et autres tronçonneuses s'en donnent à cœur joie. Voilà, très beau printemps à tout le monde, on l'a beaucoup attendu, il est là. Je vous embrasse.
Oui, bonjour. Voilà ce que je viens de recevoir de Notre-Dame-des-Landes. Alerte à Notre-Dame-des-Landes. Offensive générale. Les flics, 20 fourgons, déconnent au carrefour de la Saulce. Affrontement depuis 7 heures ce matin qui mène à la Châtaigne. ZAD, 2 blessés évacués. Carrefour des Fosses pris. Grenades assourdissantes d'usage. Aujourd'hui, font des cratères d'un mètre. Demande de renfort, la Châtaigne est expulsable depuis 26 mars. Deux arrestations. Après une charge dans la forêt, 10 fourgons aux Ardillères qui se trouvent dans le sud, plus des maîtres chiens et des physionomistes. Les flics sont aussi au niveau de la forêt en direction de la Rolandière, 3 blessés, et ont avancé sur le chemin de Suez. 9 fourgons et sirènes sur la 4 voies de Vannes vers la ZAD. Un paysage intimidé par la police, chez lui ce matin dans la commune avoisinante, Créon, soutien devant le commissariat de Blain. Au revoir tout le monde.
Bonjour Daniel, je suis chauffeur livreur, on va me faire une arthroscopie en fin de mois, on me demande 200 euros de dépassement d'honoraires, il paraît que c'est une pratique très, très autorisée. Ben moi en tant que chauffeur livreur, je vais peut-être demander à mes clients 3 euros pour dépassement d'honoraires et puis je pense que ça perdra assez vite ma participation. À raison de 40 clients par jour, tu vois, ça devrait faire un joli petit pécule d'ici l'opération. Allez, ciao, bonne vie à ton émission.
Dans son film « Film socialisme », Jean-Luc Godard commence par « L'argent est un bien public ». Merci, à vous, au revoir.
Allô, bonjour les AMG, bonjour Daniel Mermet. Voilà, je vis à Lourdes, je suis femme de chambre et cette année, ben, on n'a pas de boulot. Pourquoi on n'a pas de boulot? Parce que bon, ben, la crise oblige, les Italiens, première ressource lourdaise, ne sont pas au rendez-vous, les Espagnols non plus, les Portugais non plus. Autrement, en tant que travailleur à Lourdes, on subit la crise de plein fouet cette année et on attend vivement le pape François comme on a eu le pape précédent et en 2008 et qui nous a donné du boulot malgré tout. Alors bon, ils ont beau être des salauds, ben on a quand même du boulot malheureusement grâce à eux, quoi. Voilà, c'était Fatima de Lourdes, donc merci, au revoir.
Une fois de plus, les faucheurs volontaires de GEM et la Confédération Paysanne sont venus rendre visite à Monsanto, à Trèves dans l'Aude, pour demander les raisons de leur extension à 64 silos de 24 mètres de haut, destinés à recevoir des semences, alors on aimerait bien savoir lesquelles, et dénoncer le Monsanto Act états-unien qui permet la culture des OGM, même en cas d'interdiction dans le pays. Alors là, on ne lâche rien, et la lutte continue plus que jamais, et salut à tous les AMG.
Il faut rendre justice à Margaret Thatcher. C'est pas qu'elle avait quoi que ce soit contre les mineurs, c'est juste qu'en les voyant sortir de la mine, elle a cru qu'ils étaient noirs. Ben oui, c'est ça, en fait. Si elle avait su qu'ils étaient blancs, elle leur aurait pas fait tirer dessus, elle les aurait pas foutus au chômage. Enfin, je crois.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, vos messages qui me parviennent ici, à Wakefield Westgate, c'est dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, ici, on est venu à la rencontre des mineurs, de ceux qui, dans les années 80, ont lutté de toute leur force contre la politique de Margaret Thatcher et qui ont perdu et qui, aujourd'hui, sont pleins de rage et, pour masquer cette rage, qui chantent « Ding dong, the witch is dead !»« Ding dong, la sorcière est morte !» Et aujourd'hui, on va rencontrer Keith Dixon. Keith Dixon, qui est anglais, plutôt écossais, il tient beaucoup, et surtout qui habite depuis longtemps en France et qui enseigne la culture britannique à Lyon 2, à l'université de Lyon 2, et qui va nous expliquer sa vision de cette histoire. Margaret Thatcher est morte, demain c'est les funérailles de Margaret Thatcher, mais en fait, évidemment, elle n'est pas morte du tout. Elle a de dignes héritiers qui, depuis, continuent son œuvre, une œuvre qui est copiée un peu partout dans le monde, y compris dans notre propre pays. C'est donc effectivement quelqu'un qui a remporté une guerre sociale, une lutte sociale, une lutte de classe, qui a imposé une utopie contre une autre utopie. Quand on commence à voir les choses comme ça, utopie contre utopie et lutte de classe, classe contre classe, les choses s'éclairent d'une façon un peu différente. C'est ce que va nous dire et que va développer notre invité aujourd'hui, Guy Stickson. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour ou bonsoir. Donc un message pour annoncer la tenue du prochain Café Repère de Rouen, pour fêter les 1 an de ce Café Repère. Donc les débats, les discussions, les échanges auront lieu jeudi 18 avril à 18h au Café Perdu. Donc il y a bien un changement de lieu, hein. On passe du Café de l'Époque au Café Perdu, juste à côté. Et les thèmes des discussions abordées ce jour seront la dictature en Argentine, en lien avec les émissions du 10 et du 11 avril. Et puis, en lien avec l'émission Cahuzac, c'est toujours les petits qui trinquent. Nous évoquerons aussi la question de la vertu en politique, etc. Voilà, donc venez nombreux pour fêter les 1 an de ce Café Repère. Donc jeudi 18 avril, 18h, 44 rue d'Amiens au Café Perdu. Voilà, c'était Johan de Rouen.
La De Deuche. Ah, que revienne le bon temps de la deux chevaux Citroën, aux portières ouvrant vers l'avant. Pour le voyeur, c'était l'aubaine. Grâce à ce génial véhicule, je pus ainsi, l'œil aux aguets, voir, abasourdi, incrédule, la culotte de ma prof d'anglais. Elle portait une jupette, et pour sortir de sa deux chevaux, elle dut écarter ses gambettes, m'offrant le plus beau des tableaux. De ce jour-là, les cours d'anglais prirent une toute autre tournure. En l'écoutant, j'imaginais ma prof sortant de sa voiture. C'était le poète nostalgique. Salut.
Cher Jean MG et particulièrement MG du Bourbonnais, bonjour. Un petit message pour vous signaler que Brigitte, Stéphane et Gérard vous invitent à la prochaine édition du Café Repère « Là-bas, si j'y suis ». Qui se déroulera au Café Librairie Le Goût des Autres, 10 place Max Dormois à Moulins, dans l'Allier, le jeudi 18 avril à 19h. Nous aborderons comme thème choisi par le précédent Café Repère, l'engagement citoyen au sein de la société. Nous vous invitons à venir nombreux et à être loquaces. À jeudi, merci, bonne journée.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Prochain rendez-vous pour le Café Repère de Verdun, demain soir, mercredi 17 avril, donc à 20h30 à l'Estaminet, comme d'habitude. Et le thème de la soirée sera la servitude volontaire, donc à partir des écrits de la Boétie, entre autres. Voilà, bonne journée.
Quelques fleurs devant son domicile et des petits mots.
TF1, 9 avril 2013.
Une grande dirigeante qui a changé toute une génération et ramené la grandeur de l'Angleterre. Son éternelle coiffure impeccable.
Elle a sauvé le pays.
C'est une grande dame pour la Grande-Bretagne. Elle a divisé le pays, mais je pense qu'au bout du compte, ça a été positif.
Entre 1979 et 1990, c'est-à-dire les années Thatcher, les 10% des revenus les plus élevés en Grande-Bretagne ont connu une augmentation réelle de 69%. Pendant la même période, les 10% les plus pauvres de la Grande-Bretagne, les revenus les plus bas, ont connu une diminution de leurs revenus en termes réels de 17%.
Salut, c'est la passion qui suit. Daniel Mermet avec Keith Dixon. Ding dong. The Witch State.
Flight number 2. Arriving from New York.
And now we have the shock reaction.
Et maintenant, voici notre réaction à la mort de Margaret Thatcher.
Marquise Dixon, est-ce que vous n'avez pas un peu honte pour vos compatriotes britanniques qui sont en train d'insulter une femme, qui sont en train de sortir des insanités, des blasphèmes de toutes sortes vis-à-vis d'une dame âgée, malade, qui vient de mourir et qui a été quand même quelque chose d'important pour votre pays, la Grande-Bretagne. Et pas seulement pour votre pays, elle a servi de modèle pour une grande partie du monde, y compris le nôtre ici, notre hexagone. Donc je vais vous demander de vous expliquer en rappelant, pour commencer, que vous êtes quand même professeur de civilisation britannique à l'université de Lyon 2, auteur de pas mal d'ouvrages sur votre pays. Vous vivez en France depuis pas mal d'années. Qu'est-ce que vous dites face à ces éructations, à ces blasphèmes de ces anarchistes, de ces gauchistes plus ou moins avinés?
Oui, moi je me rappelle avoir écouté, regardé à la télévision britannique des mineurs il y a quelques années, disant que le jour où Margaret Thatcher partirait, le jour de sa mort, ils avaient l'intention de louer une bus pour le village tout entier pour pouvoir descendre au lieu de son enterrement pour cracher sur sa tombe. Et je pense qu'on mesure là, avec les célébrations qu'il y a pu y avoir dans les quartiers populaires de Londres ou au centre de Glasgow il y a quelques jours, on mesure à quel point Margaret Thatcher a divisé, a clivé la Grande-Bretagne. Il y a une partie de la Grande-Bretagne, il ne faut pas se le cacher, qui pleure. Une figure qu'il considère comme une figure historique, non seulement de la droite britannique, mais de la Grande-Bretagne tout court. Mais il y a une autre partie de la Grande-Bretagne qui considère que la fin de Thatcher, la fin physique de Margaret Thatcher, c'est en quelque sorte la fin d'un cauchemar. Alors, juste pour revenir sur un point, c'est vrai qu'on entend ci et là des commentaires selon lesquels les gens réagissent mal à Margaret Thatcher, morte et vivante, parce que c'est une femme. Mais je pense qu'il faut peut-être relativiser un peu les choses. Si Margaret Thatcher était indubitablement une femme, le thatcherisme était un phénomène qui était massivement masculin. Si on regarde autour de Margaret Thatcher, son gouvernement, son cabinet était dominé par les hommes. Et si on regarde plus loin, ce qui pour moi est beaucoup plus intéressant, les cercles intellectuels agissants qui ont à la fois préparé, accompagné et consolidé la révolution thatchérienne, ces cercles-là aussi étaient massivement masculins. Juste un mot en passant, d'ailleurs, il faut se rappeler que ceux qui aujourd'hui considèrent que c'est de mauvais goût que d'organiser des fêtes pour le décès de Margaret Thatcher feraient bien aussi de se rappeler la manière dont Margaret Thatcher a traité, elle, ses ennemis et ses adversaires, y compris les morts chez ses ennemis et ses adversaires. Je pense, par exemple, aux grévistes de la faim de l'IRA qui sont morts
Bobby parce que Margaret Thatcher et les
Bobby Sands et les autres. Je pense aux matelots argentins qui ont été tués, en particulier par le torpillage du général Belgrano, alors que ce bateau quittait la zone d'exclusion autour des Malouines. Je n'ai pas le souvenir du moindre remords exprimé par Margaret Thatcher par rapport à ces décès-là. Mm. C'est vrai qu'elle n'a pas fait de fête non plus. Mais bon, voilà, donc...
Elle n'a pas chanté « Ding dong, the witch is dead ». Elle...
Nous rirons le jour de la mort de Thatcher. Le jour où Thatcher mourra, même si on sait que ce n'est pas bien, nous danserons et nous chanterons toute la nuit.
Ding dong, la sorcière est morte. Ding dong, la méchante sorcière est morte.
La sorcière est morte. La méchante sorcière est morte.
Thank you.
She was just influential.
Elle a influencé tout le pays. Elle a libéré le marché. Elle nous a permis d'avancer et de s'enrichir.
Alors c'est ça que je vais vous demander de raconter, Keith. Vous dites, oui, il y a une partie de mes compatriotes qui pleurent, Margaret Thatcher aujourd'hui, et ceux qui critiquent et qui dansent sur le cercueil et qui vont cracher sur la tombe, pour reprendre Boris Vian. Qui la pleure exactement ? Est-ce que c'est la City ? Est-ce que c'est les riches ? Est-ce que c'est uniquement les conservateurs et les nantis ? Ou bien est-ce qu'il y a une partie aussi de la classe populaire qui pleure sa Maggie ?
Je pense que le thatcherisme, je pense que Margaret Thatcher était un phénomène populaire. C'est-à-dire qu'elle a une base sociale, elle a la base sociale traditionnelle du Parti conservateur lorsqu'elle arrive au pouvoir en 79, c'est-à-dire les couches moyennes urbaines, une partie du vote rural, peut-être moins marquant, mais dont il faut parler, il y a une partie du vote ouvrier dans certaines parties de la Grande-Bretagne qui est conservateur pour des raisons religieuses. Le vote orange, par exemple, dans l'ouest de l'Écosse, est un vote conservateur parce que anti-catholique, les catholiques étant identifiés au Parti travailliste. Donc Thatcher hérite dans les années 70 de cette base sociale-là, donc qui est déjà relativement large, mais elle élargit la base sociale du conservatisme au cours des années 80 aux ouvriers, ou une partie de la classe ouvrière, ces ouvriers qui, pendant les années 80, qualifiés pour l'essentiel, gardent leur emploi. Parce que ceux qui ne gardent pas leur emploi, un grand nombre d'emplois ouvriers disparaissent sous le règne de Thatcher, bien sûr, ne vont pas porter ni Thatcher ni le thatcherisme dans leur cœur. Mais par contre, ceux qui gardent leur emploi pendant les années 80 voient leur niveau de vie augmenter. Donc il y a une base sociale assez large. Thatcher a remporté la victoire pour la première fois à la tête de son parti dans les législatives de 79, mais elle a été réélu en 83 et réélu encore en 87. Donc, non seulement elle avait une base sociale importante, mais elle avait une base sociale stable au sein de la Grande-Bretagne. C'est ces gens-là qui aujourd'hui pleurent Thatcher. Mais c'est que la moitié de l'histoire, ça. Au plus fort de sa popularité, le Parti conservateur, dans les années 80, avait à peu près 43-44% des voix. Une majorité de Britanniques ont voté contre Thatcher pendant toute cette période-là. Simplement, l'anti-thatcherisme n'a jamais été uni pendant cette période-là. L'opposition anti-thatcherienne était fortement divisée. Donc, oui, il y a des gens qui pleurent Thatcher aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut aussi peut-être nuancer et rappeler que le thatcherisme, Margaret Thatcher elle-même, la popularité du phénomène varie selon, bien sûr, les classes sociales. Thatcher est beaucoup plus populaire chez les bourgeois que chez les prolétaires, avec l'explication aussi que je viens de donner. Et puis, ça varie selon les régions de la Grande-Bretagne. Au fur et à mesure que vous montez vers le nord, par exemple, le soutien au thatcherisme s'affaiblit. Alors, une fois que vous êtes arrivé à Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre, il n'y a déjà pas beaucoup de monde qui va se déclarer thatcherien. Vous traversez la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, et là, vous êtes dans des terres. L'anti-thatcherisme est viscéral et très fortement majoritaire en Écosse et au Pays de Galles.
Assemblée du Parti conservateur, Margaret Thatcher, 1975.
Certains socialistes semblent penser que les gens ne sont que des numéros, que des chiffres dans l'ordinateur étatique de l'administration. Nous croyons qu'ils devraient être des individus. Nous sommes tous inégaux. Personne, Dieu merci, n'est identique à quelqu'un d'autre, même si les socialistes peuvent prétendre le contraire. Et nous croyons au droit de chacun d'être inégal. Mais pour nous, chaque être humain est également important. Un homme a le droit de travailler comme il veut, de dépenser ce qu'il gagne, de posséder sa propriété, d'avoir l'État pour serviteur et non pour maître. Ce sont là les héritages britanniques. Ils sont l'essentiel d'une économie libre, et de cette liberté dépend toutes les autres.
Ce qui est frappant en revenant sur cette histoire, c'est l'agressivité de Margaret Thatcher, une agressivité d'une guerrière qui défend des idées, une vision politique, une vision de l'histoire et une vision de classe. Margaret Thatcher, c'est la lutte des classes, classe contre classe, c'est ce qui s'est passé pendant les années 80. La classe ouvrière a perdu à travers la défaite des mineurs anglais, britanniques, et c'est cette vision de l'histoire, celle de Margaret Thatcher, celle qu'on appelle le néolibéralisme, qui va l'emporter et qui, avec plein de nuances depuis, mais continue de régner sur une bonne partie de cette planète. Comment on en est arrivé là? Comment est-ce que cette pensée-là, cette vision politique s'est imposée?
Oui, juste un mot d'abord pour dire que oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que Margaret Thatcher est ce que nous, on appellerait en anglais un class warrior, c'est une guerrière de classe. Elle est aussi dans ce que moi, j'appellerais la revanche sociale, la revanche de classe. Il ne faut pas oublier que Margaret Thatcher avait une vingtaine d'années, était déjà militante conservatrice, étudiante à l'université d'Oxford, lorsque les travaillistes remportent une victoire, la victoire à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et les transformations qui vont être introduites par les travaillistes, et en particulier la mise en place du Service national de santé, mais il y en a d'autres, il y a une série de nationalisations, etc. Toute cette transformation travailliste va rencontrer une vive résistance, surtout dans les couches sociales dont Margaret Thatcher est issue. Elle vient de la petite bourgeoisie commerçante. Donc, on peut, une façon de penser l'histoire politique personnelle de Margaret Thatcher, c'est en termes d'une revanche sur la victoire travailliste, la grande victoire travailliste, suivie de réformes importantes en 1945. Donc, je suis tout à fait d'accord, je pense que beaucoup de commentateurs britanniques, pas français, mais britanniques, ont insisté sur ce caractère plutôt guerrier de Margaret Thatcher. Alors, comment expliquer l'ascension de Thatcher et du thatcherisme en Grande-Bretagne pendant les années 70 et 80? Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Le premier élément, c'est que la Grande-Bretagne traverse, dans les années 70, une grave crise sociale et économique. Une crise aussi post-impériale. D'ailleurs, la perte de l'Empire britannique va poser toute une série de nouveaux problèmes à l'économie nationale. On est dans une situation de crise. Deuxièmement, je pense qu'il faut élargir notre vision de ce que c'était que le thatcherisme au-delà de la personnalité de Margaret Thatcher. Il y avait déjà un travail important qui se préparait depuis les années 50, mais surtout depuis le début des années 70, de subversion intellectuelle de l'ordre établi social-démocrate keynésien en Grande-Bretagne. Mmh. C'est-à-dire un travail formidable de déconstruction intellectuelle qui avait été entreprise par les intellectuels combattants néolibéraux. Et en quelque sorte, c'est ce travail-là, la conjugaison de la crise économique et sociale et la narration forte de transformation de la Grande-Bretagne qui a été construite par ces intellectuels qui permet d'expliquer le thatcherisme et ses victoires.
Madame, Monsieur, bonsoir. Madame Thatcher gagne son pari et double pratiquement sa mise.
Journal d'Antenne 2, 10 juin 1983.
Les élections législatives anticipées qui se sont déroulées hier en Grande-Bretagne se transforment en raz-de-marée à l'avantage du Parti conservateur. Un raz-de-marée en siège, sinon en voix, puisque le parti du Premier ministre sortant obtient au Parlement sa plus large majorité depuis la guerre. De Londres, Bernard Rapp analyse la portée de ces élections.
Un raz-de-marée, un plébiscite, une victoire sans précédent, ce lendemain d'élection s'écrit décidément avec des superlatifs. C'est en effet la première fois dans l'histoire parlementaire de la Grande-Bretagne qu'un parti au pouvoir est réélu avec une telle majorité de sièges. Cela dit, le Parti conservateur n'est pas pour autant majoritaire en voix dans le pays. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une victoire remarquable qui autorise le gouvernement conservateur à poursuivre la politique économique et sociale menée depuis 4 ans, avec une tentation, profiter de l'ampleur du résultat pour aller très vite, trop vite peut-être.
Le succès, le triomphe du thatcherisme a pour base et pour histoire un travail intellectuel, un travail sur les idées, c'est pas seulement la cupidité et la stupidité de la cupidité qui entraîne ça. Il y a un travail très long et une parfaite connaissance de l'adversaire, c'est-à-dire cette grande Bretagne social-démocrate, keynésienne, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent bien leurs adversaires. On dit que je suis tombé sur cette citation de Margaret Thatcher qui disait « Les marxistes se lèvent très tôt pour défendre leurs idées, il faut qu'on se lève encore plus tôt.
» Oui, tout à fait. Il y a chez eux une fascination pour ce qu'ils considèrent comme étant l'hégémonie du marxisme sur une partie des intellectuels dans la période de l'après-guerre en Grande-Bretagne. Ce qu'ils souhaitent faire, c'est construire une contre-hégémonie néolibérale, mais qui a beaucoup de ressemblances aussi avec leurs adversaires. C'est-à-dire, on peut parler de groupements, d'aspirations utopistes. Le néolibéralisme qui a inspiré Margaret Thatcher est un néolibéralisme utopique. Ils veulent une utopie de marché. Ils veulent créer une société où, enfin, la main invisible du marché sera totalement libre des contraintes étatiques et syndicales.
C'est ça, c'est-à-dire le succès de la propagande thatchérienne, ça a été de dire « il n'y a pas d'alternative, there is no alternative, Tina », alors qu'effectivement, ils savaient parfaitement qu'il y en avait une.
Oui,
c'est contre cette alternative qu'ils luttent, qu'ils déploient tout leur talent, ce qu'il faut bien appeler leur talent, c'est classe contre classe, utopie contre utopie, et cette utopie s'installe et triomphe. Pourquoi est-ce que le camp d'en face, qu'on vient de décrire, social-démocratie, keynésien, avec des éléments de marxisme dedans, comment expliquer ce recul et cette défaite, finalement, de ce monde-là?
Je pense qu'il y a, là encore, qu'il y a sans doute plusieurs éléments. Pour ce qui concerne la Grande-Bretagne, mais je serais tenté de dire que dans ce cas-là, la Grande-Bretagne n'est pas très différente de la France. Pour ce qui concerne la Grande-Bretagne, il y avait ce que moi j'ai souvent décrit comme une arrogance de gauche, qui considérait que les idées c'était elles, et qu'en face c'était des brutes épaisses, en gros. Qui ne prenaient pas au sérieux le travail intellectuel de l'adversaire. Et je pense qu'en Grande-Bretagne en particulier, on a perdu du temps pendant que le camp néolibéral s'organisait, diffusait ses idées, etc. Parce qu'il y avait ce préjugé que, en gros, intellectuel et de droite, ça ne pouvait pas aller ensemble. Et il y a une sous-estimation dans la gauche britannique par rapport au travail formidable d'élaboration intellectuelle qui est en train de se passer du côté... pas seulement des petites mains du néolibéralisme, je veux dire les diffuseurs, les vecteurs de l'idée néolibérale, mais de Hayek, par exemple, lui-même, qui est un formidable producteur d'idées. Bon, voilà. Donc il y a une sous-estimation, je pense, de la gauche par rapport à l'adversaire, mais il y a aussi, il faut le dire, un deuxième élément, c'est que les travaillistes au pouvoir, la social-démocratie d'inspiration keynésienne au pouvoir, autant on peut dire qu'entre 45 et 51, réussit à transformer la Grande-Bretagne, au moins à améliorer de manière sensible les conditions de vie et d'existence de la majorité de la population. Je pense au service national de santé, il est évident que c'est un bienfait et un progrès par rapport à la situation d'avant. En Grande-Bretagne. Autant entre 64 et 70, lorsque les travaillistes sont au pouvoir, on n'a pas ce souffle. Les travaillistes sont en difficulté. Les travaillistes en anglais, on dit « don't deliver the goods ». Les travaillistes n'arrivent pas à répondre à l'attente de la population. Le keynésianisme plutôt centriste est en crise. Et surtout, les travaillistes ont peur de s'associer à l'aile la plus active et la plus radicale du mouvement ouvrier organisé. Les travaillistes, finalement, ont presque autant peur, lorsqu'ils sont au pouvoir, des syndicats combattants que les conservateurs qui veulent les suivre. Et ça va perdre le Parti travailliste dans les années 70. Ils perdent le contact, et ça doit vous dire quelque chose aussi par rapport à la France d'aujourd'hui, ils perdent le contact, quelque part, avec ceux qui sont les plus agissants dans le mouvement ouvrier, en défense des intérêts ouvriers.
Oh, we love you, Mr.
Oh, nous vous aimons, Madame Thatcher. Vous êtes l'enfant chéri de tous. Vous êtes la malédiction de la nation irlandaise. Vous m'avez détruit à crédit et vous m'avez mis au chômage. Si seulement je pouvais vous mettre la main dessus, je vous ficherais un coup de pied au cul. Oh, nous vous aimons, Madame Thatcher. Elle essaie de clouer le vote aux Irlandais encore une fois. Nous ne sommes pas inquiets par votre fichue voix à niveau gaz politique. Vous pouvez vous les garder, Madame Thatcher. Et vous pouvez tous vous les carrer dans le... Oh, nous vous aimons, Madame Thatcher. Avec les prix qui flambent et le travail qui se fait si rare, c'est sûr qu'on y perd. Maintenant, vous dites que vous ne voulez pas rester, que vous avez été là assez longtemps. Mais si j'étais un taxidermiste, je dirais d'aller vous faire empailler. Oh, nous vous aimons, Madame Thatcher. Sûr que vous avez une astuce ou deux, et chaque fois que vous venez à Dublin, nous savons exactement ce que vous allez faire. Vous habillez dans vos plus beaux atours et prêchez avec toute votre force, mais vos prétentieuses promesses sont juste une charge d'eux. Oh, nous vous aimons, Madame Thatcher. Vous m'avez détruit à crédit et vous m'avez mis au chôme du.
À partir de ce succès de Thatcher en 79, comment expliquer que cette vision du monde s'étend au monde, Reagan, puis ensuite dans certains pays comme nous, à partir de 83 en France?
Je pense qu'il y a plusieurs étapes dans ce qu'on pourrait appeler la victoire du thatcherisme, une fois que Thatcher est au pouvoir. Il y a eu 2 ans où l'avenir du projet thatcherien, et donc l'avenir aussi politique de Margaret Thatcher, était en danger en Grande-Bretagne. On a tendance à oublier ça. On a tendance à oublier, par exemple, qu'en 1981, 2 ans seulement après l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, elle était devenue, dans les sondages, le Premier ministre le plus impopulaire que la Grande-Bretagne n'avait jamais eu. En 2 ans. La Grande-Bretagne traversait une récession importante. Le nombre de chômeurs était passé d'1 million à 3 millions en quelques mois, presque, hein, en 24 mois. Hein, donc, Thatcher est en difficulté. Donc, cette première phase du thatcherisme est une phase qui est pleine de dangers pour la transformation néolibérale de la Grande-Bretagne. Il va falloir attendre 2 événements majeurs pour que la fortune, le destin, et donc la destinée du thatcherisme, du néolibéralisme britannique, se transforme. Le premier événement, c'est la guerre des Malouines de 82, hein, où Margaret Thatcher va adopter une posture churchillienne, critiquant les généraux fascistes en Argentine, oubliant de dire qu'un de ses proches amis est un fasciste au Chili, hein, est déjà
Pinochet, bien sûr.
Oui, mais bon, elle mobilise cette rhétorique-là. Et la guerre des Malouines va permettre à Thatcher de se resituer dans l'opinion publique britannique. C'est pour cela que je pense qu'il faut rappeler autre chose. C'est-à-dire, dans le phénomène thatcherien, il y a aussi...
un élément nationaliste.
Voilà.
C'est ça. Hein,
une vision nationaliste que moi j'appelle anglo-centrique. Thatcher est une Anglaise. Hein, c'est pour ça que sa rhétorique patriotique parle aux Anglais, mais pas nécessairement aux Gallois et aux Écossais. Mais il y a une mobilisation de la rhétorique anglo-centrique nationaliste chez Thatcher et qui s'épanouit au moment de la guerre des Malouines.
Ouais, une petite revanche sur l'Empire perdu.
Voilà. Après, on fait une guerre pour une île qui essentiellement est habitée par des moutons. Bon, on n'est plus dans la gloire impériale, hein, les Malouines. Hein. Ça, c'est la première étape dans le retournement. Et je pense qu'on peut mieux comprendre maintenant, surtout à la vue de ce qui s'est passé après, que la deuxième étape, c'est l'affrontement qu'elle attendait, qu'elle préparait. Il ne s'agit pas de complot ici, il s'agit tout simplement d'une vision réaliste de ce que c'était que la politique britannique à ce moment-là. C'est la confrontation avec ce qu'on appelle chez moi le mouvement ouvrier organisé, les syndicats, et en particulier avec le syndicat des mineurs. Et là, ces deux victoires-là vont transformer la fortune de Thatcher. Et c'est à partir de 84-85, que Thatcher devient une figure incontournable, pas seulement en Grande-Bretagne. Elle a amené son parti à plusieurs victoires. Elle devient la Thatcher qu'on connaît aujourd'hui. Et elle commence à attirer le regard de l'extérieur. C'est à ce moment-là que, par exemple, Reagan aux États-Unis, mais Valença, Lech Valença en Pologne, commence à considérer Margaret Thatcher comme une figure majeure de l'histoire internationale. Donc, je pense que...
En France aussi, oui. Charles Pasqua dit « il manque une Thatcher à la France ».
Écoutez, moi, je vous donnais, c'est pas le même camp du tout, mais moi, j'ai assisté à un colloque universitaire où il y avait comme invité d'honneur, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin, peu importe, Michel Charras, ancien ministre du gouvernement Mitterrand, et Charras disait cette phrase qui est assez intéressante, il disait « la différence entre Jospin et Blair, en tant que Premier ministre, c'est que Blair avait hérité d'une économie saine et modernisée. » C'est-à-dire que le thatchérisme, ici c'est quelqu'un qui est associé à la gauche, hein, française qui parle, que le thatchérisme avait réussi à rendre l'économie britannique saine et moderne.
Mais est-ce que c'est
ça
vrai?
Ça fait partie du mythe thatchérien.
Oui, mais est-ce que c'est vrai?
Non. Mais non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je pense que si on regarde quelles ont été les conséquences du thatchérisme, je pense qu'au cœur du thatchérisme, il faut reprendre une phrase que Margaret Thatcher a prononcée elle-même lors de son ascension vers le pouvoir. Elle a dit qu'il fallait rendre aux Britanniques de vrais emplois. De vrais emplois. Real jobs. À la différence de tous ces emplois fictifs qui avaient été générés par l'État interventionniste, l'État-providence, etc. Fallait des vrais emplois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période thatchérienne? La Grande-Bretagne est devenue une société de marché où le chômage était à la fois structurel et endémique. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, vous avez un volant de pauvres sans emploi en Grande-Bretagne qui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu avant. Alors, ce qu'il y a, c'est que les commentateurs français, j'en suis désolé d'une partie des commentaires encore aujourd'hui sur les soi-disant réussites économiques de Thatcher, si on tient compte de ce nombre important de travailleurs britanniques qui sont aujourd'hui, et depuis les années 80, c'est un phénomène qui est stable depuis les années 80, considérés comme inaptes au travail. Les inaptes au travail en Grande-Bretagne, vous savez combien ça représente? Ça représente 2 500 000 personnes. 2 500 000 personnes. Aujourd'hui, presque autant que les chômeurs officiels. C'est-à-dire que si vous voulez mesurer l'étendue de l'impact du thatchérisme sur le marché de l'emploi, et en particulier sur le marché de l'emploi ouvrier en Grande-Bretagne, c'est à cela qu'il faut le mesurer. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où, avec 2 500 000 à peu près chômeurs officiels, on a à peu près 5 millions de personnes.
2 millions donc de chômeurs déguisés qui émargent sur, voilà, sur les caisses maladie.
Oui, pour des raisons diverses et pas toujours simples à expliquer. On sait, par exemple, les études ont montré que ce phénomène des inaptes au travail se concentre depuis les années 80 dans les régions qui ont été les plus dévastées par la désindustrialisation thatchérienne. C'est-à-dire, de génération en génération, dans ces régions-là, les gens se trouvent dans la nécessité de valoriser ce qui ne va pas chez eux parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Ce qui ne va pas chez eux physiquement.
Kind people,
les braves gens,
have a wonderful dream,
ont un rêve merveilleux.
Margaret guillotine,
à la guillotine.
'Cause people like you,
car les gens comme toi,
make me feel so tired,
me fatiguent tellement.
When will you die?
Quand vas-tu mourir?
When will you die?
Quand vas-tu mourir?
When will you die?
Quand vas-tu mourir?
Unkind people,
et vous, braves gens,
Do not shelter this dream, make it real.
N'abritez pas ce rêve.
Make the dream real.
Faites que ce rêve devienne réalité.
Make it real.
Faites-le.
Pour l'instant, jusque-là, oui. Mais l'histoire est lente, hein, hélas, c'est cruel et lente. On ne voit pas une force qui s'oppose à ce courant thatchérien, post-thatchérien, comme on voudra, avec la même force que le Thatcher elle-même s'était imposée.
C'est une des... Une des contraintes, on peut dire, de l'histoire politique de la Grande-Bretagne, c'est que ça a été tenté à beaucoup de reprises sur l'ensemble de la Grande-Bretagne, sur le champ politique britannique. Il n'y a pas de survie à gauche en dehors du Parti travailliste. C'est-à-dire que toutes les tentatives de contrer, de construire des groupes, des partis à la gauche du Parti travailliste se sont avérées être des échecs, surtout des échecs électoraux. Parfois, il y a eu des moments de contestation qui ont duré, mais en général, ce sont des échecs électoraux. C'est pour cela que ça doit être assez désespérant d'être aujourd'hui un électeur anglais, hein, anti-néolibéral, puisqu'il n'a pas de foyer politique, cet électeur anglais, anti-néolibéral. Puisque la gauche institutionnelle, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais c'est un peu long, est représentée par le courant travailliste, et que le courant travailliste, il faut le redire, le courant travailliste a rallié les thèses thatchériennes.
Voilà. Donc elle a gagné sur tous les tableaux, oui. Et elle continue, oui, de gagner aujourd'hui. C'est un triomphe total.
Un des anciens ministres thatchériens a dit récemment que Margaret Thatcher n'a pas transformé un parti, elle a transformé deux partis. Non seulement le Parti conservateur, mais aussi, après le passage de Blair, le Parti travailliste.
Alors, essayons, puisque vous vivez quand même en France depuis longtemps, je rappelle que vous êtes professeur de civilisation britannique à Lyon, donc vous connaissez bien la France. Faites-nous un lien entre ce thatchérisme et notre histoire à nous.
Je pense que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour plusieurs raisons. D'abord parce que... ce n'est pas terriblement bien vu en France de s'inspirer d'un modèle britannique, pour des raisons historiques qu'on peut comprendre, etc. Donc, y compris les Thatchériens français ont toujours été des Thatchériens un peu honteux. Hein. Ceci étant dit, je pense que Thatcher d'abord, mais peut-être plus que Thatcher, Blair, hein, a eu une vraie influence en France. C'est-à-dire que les transformations qu'on a vues depuis une quinzaine d'années au sein de la gauche française, et en particulier de la gauche parlementaire, le Parti socialiste, sont des transformations qui sont, bon an mal an, assez fortement inspirées du modèle britannique, hein, de ce que certains appellent le social-libéralisme britannique. Moi, je n'aime pas bien le terme, parce que ça donnerait l'impression qu'il y a quelque chose de social dans les libéralismes de Blair. Je dois avouer que je ne le trouve pas, hein, cette composante sociale. Voilà. Donc,
on a quand même, au cours de ces dernières années... entendu beaucoup parler du modèle anglais. On a beaucoup de Français, de jeunes Français, qui sont installés à Londres, où là, tout était possible, il n'y avait pas toutes ces astreintes, toutes ces obligations, de toutes sortes, on pouvait s'installer, trouver un job, enfin, c'est le modèle anglais.
Ah oui, oui, ça, je pense que des anglophiles, au sein du champ politique français, il y en a eu beaucoup pendant une période. C'est un mode qui est un peu passé, parce que le modèle anglais aujourd'hui, lorsque vous regardez même juste les chiffres officiels du chômage, bon, ça commence à poser problème. Puis après, il y a eu la crise de 2008, qui c'était pas très difficile de faire le lien entre la dérégulation bancaire et financière en Grande-Bretagne et la crise que nous avons connue tous en 2008. Donc il y avait toute une série. Et puis il y a eu la guerre d'Irak. Donc il y a toute une série de raisons qui ont fait que les sociolibéraux ici ont arrêté d'utiliser la Grande-Bretagne comme modèle de référence, mais c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, vous aviez au centre du champ politique français une gamme extraordinaire de gens qui trouvaient que c'était bien ce qui se passait de l'autre côté, sans nécessairement y connaître quoi que ce soit. J'ai le souvenir de cette phrase de Martine Aubry dans la préface qu'elle avait faite pour la traduction du premier livre de Blair, qui disait que le blairisme est le pari de la gauche gagnante. Et puis, Nicolas Sarkozy n'a pas arrêté de marquer son amitié politique, publique, à Tony Blair. Et ça a été très fortement rendu, hein, puisque Blair est venu soutenir Sarkozy lors des premières élections présidentielles qui ont vu Sarkozy sortir victorieux. Donc, oui, bien sûr, il y a eu un enthousiasme. D'ailleurs, il y a un de vos confrères de la presse écrite qui avait écrit un jour que ne pas reconnaître les prouesses économiques et sociales du blairisme et du thatchérisme en Grande-Bretagne relevait de ceux qui avaient un QI de pétanque. Je faisais partie de ceux qui ont un QI de pétanque. Bagay, bagay, bagay!
Il a une bonne idée, Ken Loach, il est partout en ce moment, parce qu'il a dit une chose très simple sur les funérailles de Margaret Thatcher, qui vont coûter, je ne sais pas, 10 millions d'euros.
De livres, hein, je pense.
10 millions de livres, oui. donc une vraie fortune dans un pays qui est en grosse difficulté, et évidemment c'est de l'argent public. Et alors Ken Loach dit, mais non, ce n'est pas ce qu'il faut faire, il faut faire vraiment du thatcherisme pour lui rendre hommage, il faut faire un appel d'offres pour ses funérailles, et voilà, on donnera le marché, le job au plus offrant. Et il dit, c'est ce qu'elle aurait fait. Et donc, c'est un hommage qui devrait lui être rendu. Et ça, un succès fou, sa petite déclaration est partout, circule sur Internet,
oui, je pense
partout.
Ça, c'est aussi l'humour de Loach, j'adore. Je pense qu'il a tout à fait raison. Vous imaginez celle qui a été... Je vous donne un chiffre. Je n'ai pas donné de chiffre jusqu'à maintenant, mais un seul chiffre. Entre 1979 et 1990, c'est-à-dire les années Thatcher, les 10% des revenus les plus élevés en Grande-Bretagne ont connu une augmentation réelle de 69%. Les 10% les plus riches ont vu leurs revenus augmenter en termes réels de 69%. Pendant la même période, les 10% les plus pauvres de la Grande-Bretagne, des revenus les plus bas, ont connu une diminution de leurs revenus en termes réels de 17%. C'est-à-dire les pauvres, non seulement les riches sont devenus plus riches, parfois de manière spectaculaire pendant cette décennie, mais surtout, les pauvres qui n'étaient déjà pas très bien traités par l'État britannique, pas exagéré, les pauvres sont devenus plus pauvres. Aujourd'hui, gardons cette idée-là à la tête. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu obscène à vouloir accorder 10 millions de livres aux funérailles de quelqu'un qui est directement responsable de cet état de fait.
Comment les pauvres font-ils pour encaisser ?
Ah ben c'est une question difficile, hein, de comment les pauvres... Alors je pense qu'il y a peut-être une autre façon de le dire, c'est que comment les autres font-ils pour supporter un tel volant de pauvres chez eux ? Et je pense qu'une partie de la réponse à cette question-là, et qui commence à être l'objet d'études en Grande-Bretagne, c'est parce que, depuis une vingtaine d'années, on diabolise les pauvres en Grande-Bretagne, on les disqualifie symboliquement Ils sont pauvres parce qu'ils sont paresseux, ils sont pauvres parce qu'ils sont incultes, ils sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts.
Et ils finissent par le croire eux-mêmes.
Voilà. Mmh. Et il y a une partie, bien sûr, hein, comme toujours, hein, chez les dominés, une partie qui vont intérioriser cette idée qu'ils ne méritent pas. Hein, mais je pense que il y a surtout cette question-là. Comment est-ce qu'on peut supporter un tel un phénomène aussi important et aussi diffus dans la société britannique que la pauvreté endémique.
Hein. Et tout ce que vous dites là, évidemment, on entend bien écho à ce qui se passe ici, ce qui se passe dans d'autres parties de l'Europe. Vous n'avez pas du tout évoqué le lien entre... généralement, quand on commence à parler de Thatcher, très vite, on parle de Reagan. Mmh. Le lien entre le thatcherisme et le reaganisme.
Alors, c'est intéressant parce que souvent, pour des raisons qu'on peut comprendre historiquement, mais souvent, les commentateurs français considèrent que Thatcher a été influencée, elle, par le reaganisme. Je pense que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que, sans vouloir son fierté néolibérale, hein, c'est pas ça, mais tout simplement pour remettre les choses un peu dans leur ordre chronologique, je pense que, il suffit de regarder la chronologie. Thatcher arrive au pouvoir en 79, Reagan devient président des États-Unis en 81. C'est-à-dire que Thatcher, c'est la première tentative, si on met de côté Pinochet, c'est la première tentative grandeur réelle d'appliquer la théorie utopique néolibérale à un pays important. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, en quelque sorte, les premiers succès, entre guillemets, de Thatcher vont être regardés de près par ceux qui portent la révolution conservatrice américaine.
Est-ce que le refus de l'euro et de l'Europe chez Thatcher n'était pas finalement la bonne idée?
Vous voulez absolument me faire dire que finalement Thatcher avait une bonne idée.
J'aimerais bien.
Voilà. Ce qui est certain, c'est que Thatcher, l'expérience de Thatcher au pouvoir, c'est que, enfin, elle le dit elle-même à la fin, elle considère, mais il faut bien écouter ce qu'elle considère, elle considère que l'Europe n'est pas réformable. C'est-à-dire qu'elle fait le constat, peut-être erroné, mais elle fait le constat, elle, qu'elle ne pourrait pas faire sur l'espace européen ce qu'elle a réussi à faire en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, en 2002, elle commence à être malade, elle est en déclin, c'est une de ses dernières déclarations publiques. En 2002, elle dit que la Grande-Bretagne ferait bien de quitter l'espace européen et de faire une vraie union de libre-échange avec les États-Unis.
C'est vrai que la dame de fer en russe, c'est Stalina. Hein? Mmh. Stalina. Il y a quand même des images extraordinaires. Son amitié affichée sans aucune espèce de complexe avec Pinochet. Mmh. Son dédain pour Mandela, qu'elle traitait
dédain,
de terroriste.
Dédain, c'est un mot charitable. Je pense à haine pour Mandela, au moins au départ, est considéré comme un terroriste communiste. Oui.
Et son amitié avec Pol Pot, enfin son respect pour Pol Pot, c'est quand même extraordinaire. C'est l'aplomb de cette femme. Est-ce qu'elle prenait ses décisions seule? Elle avait un entourage? Comment elle s'y prenait?
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'elle n'est pas toute seule.
Je pense que ce qu'on voit en ce moment, ces manifestations, des blasphèmes, d'humour noir, macabre autour du cercueil de Margaret Thatcher, doit faire sourire dans sa tombe un certain Jonathan Swift, quand même.
Oui, je suis tout à fait d'accord.
Ok, merci beaucoup, Kiss.
La mort de Thatcher, ça doit être une grande fête tout autour du monde, avec des millions de personnes. Elle avait laissé un héritage de destruction des services publics et de cupidité des banquiers. Tout le monde sait que ça a commencé ici, en Grande-Bretagne, et qu'elle l'a légué au reste du monde.
C'était Ding Dong, The Witch is Dead, premier épisode d'une série d'émissions consacrée à Margaret Thatcher, décédée le 8 avril dernier à l'âge de 87 ans. Merci à Keith Dixon. Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez d'ailleurs consulter son livre « Un abécédaire du blairisme » pour une critique du néolibéralisme guerrier, disponible aux éditions du Croquant. Vous retrouvez toutes ces informations et bien plus encore sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la rubrique « Programme, émission, là-bas si j'y suis », sur le site la-ba.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission « Là-bas si j'y suis ». À la technique, aujourd'hui, Yann Bouillot et Philippe Duclos, Lucie Akoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission, préparée avec Grégory Salomonovitch. Et c'est Marion Dupas qui attend dès à présent vos messages sur le répondeur de « Là-bas si j'y suis » au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
La santé avant tout!
Et la bonne année alors? Et les bonnes Pâques?
La santé avant tout! C'est la priorité!
Heureusement, tu as la Matmut!
Matmut Santé! C'est les meilleurs soins sans attendre!
Pas d'attente!
Pas de carence avec Matmut Santé!
Selon conditions définies au contrat d'assurance Matmut Santé et Matmut Santé Essentielle.
France Inter, partenaire de l'exposition Philippines, archipel des échanges, actuellement au musée du Quai Branly à Paris. À travers une exposition exceptionnelle, partez à la découverte de l'archipel des Philippines. Sculptures, bijoux en or, tentures, costumes, pour la première fois en Europe, l'exposition inédite présente plus de 300 œuvres majeures issues d'une grande civilisation précoloniale. Retrouvez l'exposition Philippines, archipel des échanges au musée du Quai Branly dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À suivre, Frédéric Lodéon pour son carrefour de l'Odéon. Bon après-midi à l'écoute de France Inter. Dans quelques secondes, il sera tout pile 16h. Le point sur l'information avec Laetitia Gaillet.
On l'apprend à l'instant, un accident de car cet après-midi à l'Alpe d'Huez a fait 3 morts et 4 blessés graves. Information donnée par la préfecture de l'Isère. On va y revenir dans le journal de 17h. Il n'y avait que 2 bombes et rien d'autre. Le gouverneur du Massachusetts l'affirme aujourd'hui au lendemain de l'attentat de Boston. Les engins ont explosé sur la ligne d'arrivée du marathon. 3 personnes ont été tuées, 100 d'autres blessées. Conséquence de l'attentat, les mesures de sécurité sont renforcées un peu partout où auront lieu des manifestations sportives. C'est le cas notamment à Londres pour le marathon de dimanche. Les États-Unis ont pratiqué la torture après les attentats du 11 septembre. C'est indéniable, selon l'étude de l'association Constitution Project, publiée aujourd'hui. Les plus hauts responsables du pays, en l'occurrence l'administration Bush, en portent la responsabilité, selon elle. La torture était conduite à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ce fut le cas notamment à Bagram en Afghanistan ou encore à Guantanamo et en Irak. C'est la dépêche du Midi qui l'affirme cet après-midi. Jérôme Cahuzac annoncera à 18h sa démission de son mandat de député. L'ancien ministre du Budget avait jusqu'au 19 avril pour se prononcer. Mais depuis ses aveux sur l'existence d'un compte caché en Suisse, l'ensemble de la classe politique réclamait qu'il ne revienne pas à l'Assemblée. Le Haut Conseil des Finances Publiques trouvait les prévisions de croissance du gouvernement trop optimistes. Le FMI prévoit lui aujourd'hui une récession pour la France en 2013 de 0,1%. Et pour 2014, c'est guère plus encourageant selon le Fonds monétaire international. L'économie française ne connaîtra qu'un modeste rebond avec une croissance de 0,9%. Pour la Chine, la croissance sera aussi en baisse cette année de 0,2 points, mais avec tout de même 8%. Quant aux États-Unis, la croissance serait proche des 2% cette année. Et plus globalement, selon le FMI, la croissance mondiale sera plombée cette année par la zone euro avec 3,3% seulement. Mais dans cette période de crise, 2 menaces majeures ont été évitées, selon le FMI. L'éclatement de la zone euro et la cure de rigueur forcée qui se profilait aux États-Unis en début d'année. Jean-Marc Ayrault doit recevoir d'ici quelques organisé au ministère de l'Intérieur, intervient après un week-end émaillé de plusieurs incidents violents. Selon le chef du gouvernement, cette rencontre doit permettre que les futures manifestations soient faites dans le respect du droit. Chaque organisateur doit faire face à ses responsabilités, a précisé Jean-Marc Ayrault. De son côté, Frigide Barjot, la porte-parole du collectif Manif pour tous, assure aujourd'hui vouloir faire un don au Refuge. L'association qui vient en aide aux jeunes exclus de leur famille du fait de leur homosexualité a fait savoir qu'elle n'était pas intéressée. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une information judiciaire après l'agression contre un militant UMP connu pour son engagement contre le mariage homosexuel. Pour les enquêteurs, il s'agirait d'un acte crapuleux. Le parquet a demandé le placement en détention provisoire de ses 4 agresseurs présumés. Samuel Lafont a été agressé à coups de couteau samedi matin à Paris. 18 à 22 ans de prison ont été requis aujourd'hui contre Christophe Kider et Omar Top El Hadj par les assises du Rhône à Lyon. Les deux hommes sont jugés depuis le 2 avril dernier pour leur spectaculaire évasion de la centrale de Moulins en 2009. Le verdict, lui, est attendu pour vendredi. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends nombreux pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros. Aujourd'hui, mardi, dans la Creuse, à Bonnat, à 18h30. Et demain, mercredi, dans l'Indre, au Blanc, également à 18h30. À très bientôt en public.
France Inter.
La voix est libre.
Allez, c'est à vous Frédéric Ledéon, bonjour.
Bonjour Laetitia Gaillet et on vous retrouve à 17h.
Tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. D'abord les bonnes nouvelles, les sondages sont très très beaux, aussi bien pour cette émission de l'après-midi que pour les grands concerts de Radio France le dimanche à 21h, donc merci pour votre fidélité. Et évidemment, les mauvaises nouvelles, vous avez déjà entendu, ce qui s'est passé à Boston nous navre profondément, nous blesse bien sûr, et j'ai eu envie de vous faire entendre un peu des enregistrements de l'orchestre de Boston qui a été mené à une certaine époque par le grand Charles Munch, un maître français, et il a été directeur musical à Boston à partir de 1949 jusqu'en 62. On l'appelait le beau Charles. Et dans un sondage de 49, justement, les lectrices du magazine Elle le désignaient comme le partenaire idéal à dîner, devancé seulement par Winston Churchill. Churchill qui avait quand même eu une action extrêmement forte pendant la guerre. Action positive, bien sûr, donc un très beau compliment. Et puis un orchestre absolument extraordinaire, une force, une puissance, une humanité aussi dégagée par Charles Munch à la tête de cette phalange d'élite. Voici un exemple. Un peu du molto vivace, deuxième mouvement de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. Le deuxième mouvement, Molto Vivace, très vif et très puissant, si on a entendu les timbales déchaînées par Charles Munch dans cette 9e symphonie de Beethoven, à la tête de l'orchestre symphonique de Boston, qui était son orchestre favori avant qu'il n'arrive en France pour diriger l'orchestre de Paris. Et puis, dans cette 9e symphonie de Beethoven, une époque où il y a tant de conflits, tant de bagarres, des attentats, vous avez entendu, évidemment, mais il y a un passage qui réclame de la joie, on le